Journal du naturaliste Claus van der Stappen. 23 avril de l'an de grâce 1514. Le matelot de Vigie a fait sonner la cloche. Les terres du royaume de Siam sont enfin en vue, après un voyage de 305 jours à bord du Gulden Kroniken, fier vaisseau amiral voguant sous le pavillon des Pays-Bas bourguignons et naviguant pour le compte de notre souverain Charles Quint. Les navires de Manuel Ier, roi du Portugal, nous auront devancé de peu, conduits par un Vasco de Gama dont la bravoure n'a eu d'égal que la cruauté. Et c'est... Verdom, voilà à nouveau que le Grobart rend son repas aux poissons. Enfin, j'écris le Grobart, mais mon compagnon de cabine, le zoologiste anversois Bart de Wivere, a perdu de sa superbe et de son embonpoint depuis notre départ des Flandres. La dysenterie le laisse dans un piteux état, alors que nous atteignons ses étendues Peridaisa, ses étendues paradisio, ses étendues paradisiaques. Il est fort regrettable que... Me voilà à nouveau interrompu. Un tuitus vulgaris vient de se poser à tribord, porteur d'un message qui m'est destiné. Il n'y a en effet point de pigeons voyageurs dans ces contrées tropicales, mais bien de petits oiseaux bleus dont je fis l'étonnante découverte. Leur taille des plus réduites limite l'utilisation des tuitus au transport de brefs messages. Pour de plus longs échanges, il nous a été rapporté par l'explorateur anglais d'origine française, Sir John Julian Misroy, que les autochtones communiquent au moyen d'un système complexe de signaux proches de nos pavillons maritimes. Lançant dans les cieux une multitude de cerfs-volants aux formes et aux couleurs variées, les habitants du royaume de Siam dessinent au-dessus de l'horizon comme une immense partition dont l'aspect varie en fonction du message dont elle est porteuse. Les fils des cerfs-volants, tendus aux quatre vents, prennent l'aspect d'une immense toile d'araignée que Sir Misroy baptisa dans sa langue anglaise si lapidaire.
The Web.
Le Web. Ce vaste réseau de communication qu'il me faudra donc explorer plus avant. Mais revenons-en au tuitus vulgaris et au message qu'il m'apporte.
Cher Klaus, vos confrères et consorts de la société secrète du radieux Grand Papyrus vous saluent et aimeraient savoir quand vous comptiez nous livrer vos...
Vos cotisations, vos mémoires, vos chroniques peut-être, je l'ignore hélas. Voilà bien l'inconvénient du tuitus vulgaris et des trop brefs messages qu'il transporte. Qu'importe, je m'en vais répondre sans attendre à mes anciens compagnons. Qu'ai-je hâte de les retrouver autour d'une trappiste et de lever mon verre avec eux à la longue vie de la société secrète du radieux Grand Papyrus. Vole donc, petit tuitus, vole. Après cette introduction bien trop longue, il est temps de lancer cette nouvelle rubrique qui sera consacrée aux bandes dessinées numériques. Il sera question de hashtag, de téléchargement, de DRM, d'URL et de barre slash, d'où son titre, ma vie en slash. Du double slash à la paire de slash, il n'y a pourtant qu'un pas à franchir et c'est bien le cas de le dire. Je tenterai donc également à l'occasion de vous faire découvrir le paysage de la bande dessinée thaïlandaise et d'Asie du Sud-Est dont j'admire désormais le panorama. Pour faire la transition avec feu ma rubrique Ellen Back dédiée aux comics, je présenterai ce mois-ci une bande dessinée numérique écrite par un auteur américain dont le travail fut régulièrement évoqué lors de précédentes émissions du Radio Grand Papyrus, pardon, de Radio Grand Papier. Il s'agit du scénariste Brian K. Vaughan, à qui l'on doit déjà le survival post-apocalyptique Y le dernier homme, le récit de science-fiction décalé Saga ou encore Ex Machina, une politique fiction au sein de la mairie de New York assaisonnée d'une pincée de spandex. Consciencieux bâtisseur d'univers, Vaughan se place dans la lignée des auteurs du label Vertigo en proposant des détournements de genre à la fois divertissants, porteurs d'une réflexion sociale ou politique et soutenus par des dialogues inspirés. Lorsqu'il proposa à Marcos Martin de collaborer avec lui sur une nouvelle série d'anticipations dans une Amérique où Internet aurait cessé d'exister, le dessinateur espagnol lui suggéra l'idée brillante de destiner ce récit uniquement et spécifiquement au réseau Internet. En mars 2013, Marcos Martin lance donc le site Panel Syndicate pour y publier un nouveau chapitre de leur série The Private Eye tous les deux mois. Vaughan et Martin, novices dans le domaine informatique, proposent une interface très simple et des planches aux compositions proches du format papier, si ce n'est pour le format conçu à l'horizontale et adapté aux écrans d'ordinateur. L'une des grandes nouveautés réside cependant dans le fait qu'ils sont les deux premiers grandes pointures du comics américain à se lancer dans l'aventure en toute indépendance. Conservant leurs droits et leur entière liberté éditoriale sur cette série, ils proposent aux internautes de payer le montant qu'ils souhaitent pour l'achat de chaque chapitre. Le prix minimum conseillé par les auteurs est de 99 cents, mais l'internaute peut également choisir de ne rien payer pour acquérir son chapitre ou de verser un montant supérieur. L'acheteur obtiendra alors une version PDF du chapitre qu'il sera en mesure de télécharger et de conserver sur son ordinateur. Dépassant le cadre de la simple lecture en ligne, le site propose également leur série dans plusieurs langues avec des versions en anglais, en espagnol, en catalan, en portugais et également dans la langue de Molière. Le public est rapidement au rendez-vous et The Private Eye devient l'un des premiers blockbusters de la bande dessinée numérique. Les revenus obtenus permettent, selon les auteurs, de payer l'entièreté de leurs loyers respectifs. Mais venons-en au contenu. The Private Eye est donc un récit d'anticipation situé dans le Los Angeles de 2076. Voilà 60 ans qu'a eu lieu un immense et désastreux bug informatique connu sous le nom du déluge. En 2016, durant 40 jours, le cloud, cet espace de stockage de l'ensemble des données informatiques, éclate et laisse filtrer l'intégralité de son contenu. Chacun a désormais accès à l'entièreté des informations privées et secrètes de n'importe quelle autre personne, mais aussi de toute société, banque ou gouvernement. Vaughan imagine cependant que le véritable drame provoqué par l'éclatement du cloud se jouera dans le cadre privé, au sein des couples et des familles. Imaginez en effet un instant que votre historique de recherche personnelle, témoignant de vos centres d'intérêt parfois les plus intimes et les plus sombres, soit révélé à vos collègues, vos proches et vos familles. Il s'ensuit une paranoïa collective et l'abolition d'Internet. L'atteinte à la vie privée devient le plus important des crimes, si bien que la presse et la police sont fusionnées afin de veiller au bouclage et à la classification de toute information. Les bibliothécaires deviennent des agents assermentés de l'État et doivent conserver sous scellé le contenu des biographies et des dossiers médicaux, judiciaires et d'état civil. En 2076, chacun dissimule désormais son identité derrière un masque et un déguisement. Cette nouvelle norme sociale a mené au développement de costumes variés qui donnent le sentiment que les trottoirs des mégapoles sont envahis par un défilé de carnaval permanent. Elle pousse aussi à la crainte du format numérique et au retour des supports analogiques comme les vinyles en musique et les pellicules en photographie. Les nouvelles technologies poursuivent cependant leur développement et les voitures flottantes ont fait leur apparition. Dans ce monde à l'aspect rétro-futuriste plutôt original, la profession de détective privé est bien entendu interdite. C'est dans la clandestinité que le jeune Patrick Immelman exerce ce métier prohibé et pourtant bien pratique lorsqu'il faut retrouver quelqu'un dans l'opacité de ce carnaval de masques et de pseudonymes. Avec son grand-père sénile qui croit encore pouvoir jouer à un shoot-em-up en mode multijoueur sur la toile, P.I. s'embarquera dans une enquête périlleuse et haletante suite à l'assassinat de l'une de ses clientes. The Private Eye est donc un polar noir aux couleurs pourtant bariolées. La coloriste Moon Savincente tire d'ailleurs profit de la palette presque infinie que lui offre le support numérique. Marcos Martin, dessinateur remarqué sur des mini-séries de Robin, Batgirl, Spider-Man et Daredevil, nous propose un style qui évoque celui de Romita Jr. lors de sa collaboration avec Frank Miller sur le titre Daredevil, The Man Without Fear. Avec ses personnages plus élancés et sa ligne relativement claire et épurée, il apporte une agréable touche européenne à ce thriller dynamique. Brian K. Vaughan, fidèle à lui-même, exploite à merveille les possibilités offertes par son concept initial. Un récit d'anticipation où le futur se bâtirait sans Internet mais disponible uniquement en format numérique, voilà qui me semblait être une bonne pioche pour lancer cette rubrique. Sawadee Kap, les amis.